Que j'ai pas pu saluer déjà. On l'a déjà fait, mais on peut le refaire. Il est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité.
Amen. Et c'est notre thème ce matin, il est vraiment ressuscité. J'avoue que mon estomac a un peu tourné tout à l'heure en regardant le film que Michel nous a montré. Je l'avais vu, c'est vrai, adolescent. Je me rappelle n'avoir jamais voulu le revoir. C'est vrai que combien difficile, mais en même temps combien ancré dans la réalité de ce qui s'est passé. Mais tout aussi réel qu'il est mort, parce qu'il faut un mort pour que quelqu'un soit ressuscité, il est ressuscité. Et c'est notre thème pour ce matin. On dit souvent que les seules sources pour la résurrection de Jésus sont dans la Bible. Du coup, voilà, c'est à leur avantage. Ils veulent dire que Jésus est ressuscité parce que ça les arrange, etc. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y en a d'autres. Il y a Josephus, par exemple, un historien juif qui en parle. Nous avons aussi beaucoup d'écrits qui datent même du 1er siècle après Jésus-Christ, qui parlent de sa résurrection. On dit que rien que dans les écrits de tous les pères de l'Église, c'est-à-dire ceux qui ont suivi les apôtres et qui ont écrit, on pourrait avoir toute la Bible rien que par leurs citations. Je regardais hier soir juste les écrits des pères de l'Église du 1er siècle, dont Polycarpe, qui était le disciple de Jean. Le disciple de Jésus, donc. Irénée, qui était le disciple de Polycarpe. Et plusieurs autres. On a plus de 900 pages en PDF, hein, de leurs écrits, qui datent du 1er siècle. Mais même si on n'avait que la Bible, ce serait suffisant comme évidence. J'ai déjà partagé un petit peu la fiabilité de la Bible par le passé, pour ceux qui s'en rappellent. D'autres écrits, pourtant bien reconnus, tels que La guerre des Gaules de Jules César. J'aime bien cet exemple parce qu'il nous concerne, c'est la Gaule, hein, c'est la France. La copie la plus ancienne que nous avons de La guerre des Gaules est carolingienne, c'est-à-dire qu'elle date d'environ 750 après Jésus-Christ. Donc le manuscrit le plus ancien que nous avons à ce sujet, bon, nous en avons plusieurs éparpillés. Et ça en fait une des plus anciennes copies complètes de l'Antiquité classique, selon Wikipédia. Alors, en analysant la guerre des Gaules, Michel Rimbaud analyse les subtils procédés rhétoriques qui permettent de présenter César sous un jour qui convient aux intérêts d'alors du proconsul, donc de César. C'est lui qui a écrit. Donc il a écrit pour s'arranger, bien sûr, pour léguer une bonne impression. Description systématiquement méliorative du général, minoration du rôle de ses légats, valorisation systématique de ses adversaires et de leur vaillance, dans le seul but de valoriser sa victoire. Plus l'ennemi est fort, plus sa victoire est éclatante, etc. La guerre des Gaules est donc un ouvrage de propagande destiné à valoriser le général vainqueur aux yeux du Sénat, afin qu'il puisse affermir son influence à Rome. Cependant, j'ai pris tout ça, hein, de Wikipédia, c'est Michel Rimbaud qui analyse ceci. Cependant, il faut tempérer ce jugement. La valeur factuelle de l'ouvrage est reconnue. Et les spécialistes de l'Antiquité considèrent que César n'aurait pu trop déformer la réalité, étant donné la multiplicité des sources d'informations dont disposaient ses contemporains. Et oui, s'il aurait trop déformé la réalité, ça se serait su. Donc il est obligé de rester un minimum fidèle à la réalité. Au total, on peut considérer que tout l'art de César à cet égard est de parvenir à un équilibre subtil en présentant les choses à son avantage sans perdre sa crédibilité par des manipulations excessives de la réalité. Et pourtant, donc voilà, nous avons juste quelques écrits de César. On ne doute pas que César a conquis la Gaule. C'est un fait historique qui n'est pas remis en doute. Et pourtant, vous voyez tout le biais qu'il existe dans ses écrits. La Bible, elle, on parle souvent de « ouais, c'est juste dans la Bible », mais la Bible, ce n'est pas juste un livre. C'est une collection de livres, d'écritures. Donc plusieurs sont très proches de leur première date d'écriture. Nous avons un manuscrit qui date d'environ 90 après Jésus-Christ, de 112 après Jésus-Christ, de l'évangile de Jean. C'est une toute petite portion, à peu près un paragraphe. Jean, il a écrit, on pense, vers les années 80-90 après Jésus-Christ. Donc ça date de 20-30 ans après que Jean l'aurait écrit. Mais rappelons-nous que la Bible est une collection d'ouvrages qui n'a été formalisée qu'après le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Avant ça, les copies circulaient librement. Un avait la copie de Matthieu, l'autre de Marc. Celui qui avait Matthieu, Marc, Luc et Jean, tard, il était content. Tous n'avaient pas accès à toute la Bible. C'était des écrits qui avaient été faits individuellement. Alors, on pense que Matthieu et Luc connaissaient l'existence de Marc, qui s'étaient inspirés de Marc pour rapporter leur point de vue. Mais Matthieu est un disciple de Jésus, Marc est un disciple de Paul, mais qui apparemment aurait suivi Jésus pendant son ministère sur Terre. Luc était un docteur qui a fait des recherches incroyables pour vraiment donner une vision ordonnée des choses, et Jean était le disciple donc de Jésus, Jean. Mais il n'y a pas que eux, il y a Paul qui écrit dans sa lettre aux Corinthiens, il y a Pierre, les épîtres de Pierre, les épîtres de Jacques. Même si Jacques ne parle pas spécifiquement de l'événement de la résurrection, on voit très bien qu'il y croit dans son livre. Donc nous avons des écrits de nombreux disciples qui disent tous la même chose. D'ailleurs, on voit des petites différences dans les différents écrits. Des fois, on se dit « oh, il y a un truc qui cloche ». Je vous donne un exemple. Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin alors qu'il faisait sombre et vit que la pierre avait été enlevée. Donc ça, c'est d'après Jean. Mais dans 16, on voit qu'il y a Marie Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé. Par contre, dans Luc, on voit qu'il y a Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques. Mais il précise, et les autres femmes qui étaient avec elle. Donc on voit qu'en fait, il y a tout un tas. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui parle que de Marie de Magdala que les autres n'étaient pas là, etc. Il y a des choses qui peuvent paraître un peu bizarres au premier abord, mais ça ne fait que confirmer ce qui s'est passé, parce que chacun partage son opinion. Quand il y a un accident sur la route, et les policiers viennent avec leur calepin, je peux vous dire qu'ils ont plusieurs histoires différentes. Tout le monde n'a pas vu exactement la même chose. Ils doivent essayer de recoller avec ces morceaux, et puis des fois la mémoire est un peu faillible, on oublie un petit peu ce qui s'est réellement passé, on croit avoir vu quelque chose qui ne s'est pas passé. C'est très compliqué des fois de tout mettre ensemble. Et pourtant là nous avons au moins 6 personnes, donc Matthieu, Marc, Luc, bon Luc qui ne l'a pas vu mais qui a parlé à ceux qui l'ont vu, Jean, Paul et Pierre qui parlent de la résurrection de Jésus comme un fait qui s'est passé. Alors j'aimerais d'abord explorer un peu cette certitude ce matin, juste en passant par une personne, Paul, dans 1 Corinthiens 15, versets 1-22, et puis après qu'on voit un petit peu la signification de cet événement. Je vous propose d'abord de lire le passage dans 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Voici le message, voici un peu la clé. Hein. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons. Et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Est-ce que vous avez compris ? Je crois qu'il a assez répété, hein ? Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Leur foi est inutile. Tout ce qu'ils ont fait, c'est inutile, c'est futile. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Amen. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est ensemble de revenir dans ce passage et de voir un petit peu quelques indices, parce que voilà ce qu'il a écrit. Qu'est-ce qui fait que ce récit n'est pas discutable, ne peut pas être remis en question ? Donc je vais lire, et puis arrêtez-moi. Quand vous voyez quelque chose qui est vérifiable ou qui montre que ce texte est véridique, que Christ est ressuscité. Vous êtes prêts ? Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Ah ! Oui, qu'est-ce qu'on voit ici déjà ? Voilà, déjà ça avait été prédit et on voit qu'il n'y a pas de surprise. C'est pas comme Christ est ressuscité comme ça. Ah ben tiens, ça, c'était pas prévu au programme. Non, c'était prévu au programme déjà. Hein ? Il a été enseveli. Est-ce que c'est important ça ? Eh oui, il a été enseveli. Embaumé, etc., avec des épices, des draps sur le visage. C'est un peu dur de respirer si on est enseveli déjà. Et il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Donc, toujours conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas. Oui ?
Un témoin visuel.
Il ne dit pas, il est apparu un homme. Il est apparu à Céphas. Allez lui demander si vous voulez. Hein ? Céphas, vous savez qui c'est ? C'est Pierre. Puis aux 12. Stop. Aux 12 disciples. Là, on a 12 témoins d'un coup. Paf. Ça ne vous suffit pas ? Ils étaient trop proches de Jésus, ils avaient un agenda. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois. Est-ce que ça vous suffit comme témoin ? Dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Merci. Il est en train de dire, la plupart sont encore vivants, allez leur demander. À l'époque où il écrit cela, la plupart de ceux qui ont vu Jésus ressuscité sont vivants. Et quelques-uns sont morts. Donc on voit que ça fait peut-être, je ne sais pas moi, une dizaine, une quinzaine d'années à tout casser. Parce que si la plupart sont vivants, c'est que à cette époque-là, on ne vivait pas à 80, 100 ans. Donc voilà, hein, ça ne fait pas si longtemps qu'il écrit. Hein. Ça ne fait pas longtemps que ça s'est passé. Ensuite, il est apparu à Jacques. Allez, bim, encore un an. Puis à tous les apôtres. Après tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. Est-ce que vous savez, quand Jésus est apparu à Paul, Jésus ressuscité, sur le chemin de Damas. Voilà une apparition un peu, on peut dire, hors de l'ordinaire. Oui. Absolument.
On sait que c'était un croyant de son vivant, il ne croyait pas en Jésus. Et Paul, c'est un adversaire.
Exactement. Hein, donc c'est exactement ça. C'est un argument de poids. On y vient d'ailleurs dans le passage ici pour Paul. Mais c'est aussi vrai de Jacques, hein, comme il vient de dire. Jacques était le frère de Jésus, mais ne croyait pas forcément en Jésus. Donc il est apparu à Jacques. Et Jacques, qui devient ensuite, on voit un conseil, dans le conseil des anciens de Jérusalem, dans le livre des Actes, montre que des gens qui ne voulaient pas y croire ont été forcés d'admettre la réalité. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et voilà où on rejoint ce que vient de dire Josué, merci. Hein? Il a persécuté l'Église de Dieu, Paul. Paul, il était contre Jésus. C'est quoi ces chrétiens qui croient que Jésus est ressuscité? C'est quoi ça? On va aller les chercher, les traîner dans les prisons. Et paf! Ah! Jésus, excuse-moi, je te persécute. D'accord. Ouf! Paul lui-même est un témoignage de la résurrection de Jésus. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Paf! Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Donc on voit vraiment la transformation, le changement de Paul par rapport à la résurrection. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons et voilà aussi ce que vous avez cru. Alors, j'ai passé pas mal de temps dans les récits et ce serait trop de vous partager tous les passages parce qu'il y en a tellement qui parlent de la résurrection, c'est tellement bien attesté. Mais j'aimerais qu'on passe sur quelques-uns des faits qui sont présentés dans les différents évangiles, juste pour qu'on voit le poids de la résurrection. Déjà, quand Joseph d'Arimathée va demander le corps de Jésus, Pilate s'étonne qu'il soit déjà mort. Il fait venir l'officier et lui demande si Jésus était mort depuis longtemps. Donc il confirme la mort de Jésus. Bon, on sait aussi que Jésus a été transpercé par une lance, hein, alors qu'il était déjà mort, que de l'eau est sortie de son cœur, en gros. Hein, enfin voilà, on est sûr qu'il est mort, il n'y a pas de doute, nous avons un mort. Un homme riche d'Arimathée, du nom de Joseph, un membre éminent du conseil, le dépose dans un tombeau neuf. Alors, beaucoup de détails importants là-dedans. Déjà, c'est un homme riche, hein, donc connu en général, du nom de Joseph, c'est un membre éminent du conseil de Jérusalem. Donc lui, il n'était pas d'accord avec la décision du conseil, hein, des pharisiens, donc lui-même pharisien. Et lui, il a le courage d'aller demander pour le corps de Jésus. Donc on ne peut pas inventer un nom comme ça, paf, encore un nom important. Joseph d'Arimathée. Et il le dépose dans un tombeau neuf. Pourquoi est-ce que ce serait important? Ok. Donc c'était prédit, donc c'est important pour cela. Pourquoi d'autre est-ce que ça pourrait être important qu'il soit déposé dans un tombeau neuf? Et, ouais, et aussi, on ne peut pas se tromper, il n'y en a qu'un dedans. Il n'y a que lui. on roule une grande pierre de vin. Alors quand on dit une grande pierre, on parle du poids d'une voiture. Hein. Ça ne se déplaçait pas tout seul. Mon père, il me raconte quand il est allé à Jérusalem que son guide s'est mis à l'intérieur d'une tombe et lui a dit « Bon, bah, vas-y, roule la pierre. » Mon père, il dit « Moi, j'étais assez costaud à l'époque, je soulevais un peu, je faisais de la muscu, tout ça. » Il a dit « J'ai poussé toutes mes forces, mais ça ne bouge pas d'un poil. » Alors en plus le terrain en général était pentu pour que la pierre elle se cale dans la pente et puis après c'est fini. Alors déjà pour la mettre en place, il faut être 2, 3, 4 je pense, avec peut-être des baramines on y arrive. Mais pour la ressortir, c'est encore une autre histoire. Donc on a parlé du fait que Jésus prédisait sa résurrection tellement bien qu'il l'a prédisait que même les pharisiens l'ont compris. Ils vont voir Pilate et lui disent « Cet homme, il a dit qu'il allait ressusciter. Si jamais il disparaît, ils vont en profiter pour dire qu'il est ressuscité. On se retrouve encore pire qu'avant. Donc, faut pas qu'on puisse voler son corps. » Du coup, une garde romaine est placée. Alors, j'ai entendu le chiffre 16 hommes de garde. Je ne sais pas exactement, mais apparemment, une garde, ça aurait été ça, de 16 hommes. Et en plus, le tombeau est scellé. Donc, on ne peut pas rentrer comme ça. Alors, aller marcher en passant à côté des gardes romains sans qu'ils le voient, pousser toute la pierre, tout en sachant que les Romains, si jamais ils étaient trouvés endormis à leur poste, eh ben, c'était la mort. Hein, donc, voilà. Bon courage. Nous savons que plusieurs femmes viennent au tombeau, dont Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques, Jeanne et Salomé. Puis peut-être d'autres, on n'en sait rien. Jésus apparaît à Marie de Magdala. Il apparaît à une femme d'abord. Pourquoi est-ce que c'est significatif? Parce qu'à cette époque-là, le témoignage d'une femme ne valait rien dans le système de justice. Ça n'avait aucune valeur. Alors pourquoi est-ce qu'il apparaîtrait à une femme d'abord? Si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'on leur dirait? Parce que c'est, quelque part, c'est discréditant. Quoi, c'est une femme qui vous l'a annoncé? C'est important, il apparaît à une femme d'abord. Et d'ailleurs, ça montre le cœur de Jésus aussi pour les femmes. Personne ne la croit d'ailleurs, hein, quand elle vient rapporter qu'elle a vu Jésus. Les disciples ne la croient pas. Nous savons que les gardes sont effrayés, qu'ils vont tout raconter au Sanhédrin, aux pharisiens, et on leur dit de mentir, de dire que les disciples sont venus voler leur corps pendant qu'ils dormaient. Alors du coup, ils risquent la mort, mais on les paye bien et ils disent « Si jamais vous avez des ennuis avec vos supérieurs, on s'arrangera pour que rien ne vous arrive. » Ok ? Ensuite, nous avons Pierre et Jean qui arrivent au tombeau. Dans l'épître de Jean, j'aime beaucoup parce qu'il y a des détails que seuls soit Pierre, soit Jean auraient pu savoir. L'ordre de leur arrivée, hein, Jean il dit qu'il a couru plus vite que Pierre, il arrive en premier, mais qu'il n'entre pas, c'est Pierre qui rentre en premier. Les différents gestes, les différents placements les emplacements des objets, d'ailleurs le tombeau n'est pas vide, hein. Il y a des bandelettes. Et le linge pour la tête est enroulé dans un endroit à part. Des détails... Pourquoi est-ce qu'on rajouterait ce détail-là s'il n'était pas vrai? C'est un peu bizarre. Ils ne savaient pas qu'il devait ressusciter. Alors ça, c'est intéressant parce que les pharisiens, eux, ils disent « Il a dit qu'il allait ressusciter dans 3 jours. » Mais les disciples, eux, ils n'avaient rien compris. Hein? Ils ne savaient pas qu'il devait ressusciter. C'était une surprise pour eux. Ce n'est pas comme s'ils voulaient le voir ressusciter. Eux, ils venaient de voir ce que l'on a vu dans le film. Et vous pouvez imaginer leur peine, leur désarroi. Ensuite, nous savons que Jésus apparaît à Pierre, à Céphas. On le sait par le texte que nous avons lu et on le sait aussi parce que lorsque les deux disciples rentrent du chemin d'Emmaüs, ils disent qu'il est apparu à Céphas aussi pendant ce temps-là. Donc on ne sait pas s'il est apparu à Céphas d'abord ou aux deux disciples sur la route d'Emmaüs, mais en tout cas, il leur est apparu. Ensuite, il apparaît dans une maison fermée à clé. À tous les disciples, sauf Thomas. Alors, il apparaît à tout le monde. Il mange avec eux, il leur montre ses meurtrissures. Il, il, il apparaît à tout le monde, sauf à Thomas. Et là, nous avons Thomas qui ne croit pas. Pourtant, tout le monde l'a vu. Voilà, c'est ça. Ah, poisson d'avril, vous fichez de, fichez de moi. Là. Hein? Lui, il n'est pas crédule. Lui, s'il ne le voit pas, il ne le croit pas. Hein? Alors Jésus lui dit, bon, d'accord. Une semaine plus tard, il apparaît. Il dit, viens Thomas, viens toucher. Mets tes mains. Ça fait quand même beaucoup de choses. Beaucoup de gens qui ont vu, rapporté par de nombreuses personnes. Il apparaît encore plus tard aux disciples lorsqu'ils sont en train de pêcher. Et puis on sait qu'il apparaît à plus de 500 personnes par Paul. On sait qu'il leur apparaît sur une période de 40 jours d'après Actes, donc, qui est écrit par Luc. Il est enlevé au ciel devant de nombreux témoins. Alors on ne sait pas du tout combien c'est nombreux. Ça pourrait être une vingtaine comme ça pourrait être les 500. Peut-être que c'est à ce moment-là, j'en sais rien. Et ensuite, c'est peut-être l'argument le plus pertinent, les disciples risquent la mort, l'emprisonnement, etc. La grande majorité, par les écrits justement des pères de l'Église, nous savons qu'ils sont morts en martyrs. Je pense que 10 sur les 11, il n'y a que Jean, il me semble, qui n'est pas mort martyr, du moins selon les traditions que nous avons. Et ensuite, il y a Paul qui le voit ressusciter sur la route de Damas alors que il persécutait ceux qui croyaient en lui. Il change complètement de vie, hein, comme nous partage Josué, et il la risque pour proclamer le Christ ressuscité. Ça fait quand même beaucoup de choses, hein, qui sont un peu dures à expliquer. Si Christ n'est pas réellement ressuscité, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça autre que sa résurrection? On ne peut pas expliquer ça par des hallucinations. Ils l'ont touché. Les hallucinations, en général, ça ne se fait pas en groupe, hein. Il y a trop de choses ici pour conclure autrement, historiquement, que Jésus-Christ est ressuscité. D'ailleurs, Josh McDowell, qui était un journaliste, et qui croyait, il en avait marre que sa femme croie ses fables, et bien, il s'est penché sur la question. Il a dit, bon, ben, je vais lui montrer une fois pour toutes. Moi, j'ai l'habitude de, je suis journaliste, hein, j'ai l'habitude de voir ce qui est réel. Il est parti pour prouver à sa femme que c'était pas vrai, et puis il a dû se rendre à l'évidence que ben, s'il croyait ses procédés et ses méthodes de vérification, ben, il n'y avait vraiment pas d'autre choix. Alors qu'est-ce que ça change pour nous? Ouais, je voulais vous partager un petit, une petite illustration qui vient du volley. Vous savez que bon, mon père m'a un peu donné l'amour du volley. Et mon père me disait toujours, il y a une chose qui est plus beau qu'un grand smash. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, je crois qu'il y en a deux. Mais il me disait un gros bloc. Hein? Dans le volley, plus beau qu'un beau smash, c'est un beau bloc. Bon, moi, je pense aussi qu'il y a le gars qui remonte la balle perdu, que personne n'y croyait. Je trouve ça aussi, aussi magnifique. Et mon entraîneur, il me disait, pour mettre un bon bloc, il faut qu'il y ait un bon smash. Si le mec, il te smash rien du tout, bah, ça va pas, voilà, tu le bloques peut-être, mais c'est pas joli. Et notre entraîneur nous disait aussi, mettez bien vos bras là, comme un toit, et après s'il tape dans vos mains, et ben plus vite il tape, plus vite ça tombe. Ben, pour moi, c'est ce que Dieu a fait avec la résurrection. Il a placé des gardes, il a scellé le tombeau, il a placé une grande pierre. Plus il voulait en rajouter, plus il voulait mettre un gros smash, et plus ils se sont fait bloquer, en gros, plus grande a éclaté la gloire de Dieu dans tout cela. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Donc, on voit que Paul, il écrit aux Corinthiens et qu'il y avait ce problème-là. Il disait qu'on ne ressusciterait pas par la suite. Mais il dit, si il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Tout repose là-dessus. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Vous n'êtes pas sauvés si Christ n'est pas ressuscité. Il est mort pour vous, bien. Mais quel pouvoir a-t-il pour vous donner la vie? Si c'est seulement pour cette vie que nous espérons Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alors quelle importance cette résurrection? Ben, c'est tout. C'est toute l'importance. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes morts. Il n'y a aucun espoir pour que nous aussi puissions vivre après la mort. Le contraire n'a aucun sens. Tous les apôtres et les femmes seraient de faux témoins en adversité contre Dieu s'ils n'étaient pas ressuscités. Ceux qui sont morts sont perdus. Pour tous ceux qui sont martyrs, pour Paul qui est emprisonné et qui est mis en prison, c'est pour rien. Paul risque sa vie, mais pour rien. La prédication serait vide. C'est joli, Christ est mort pour nous, mais sans pouvoir. Sans que Jésus conquiert la mort, nous sommes toujours sous l'emprise de la mort. Nous serions encore dans le péché, notre foi ne servirait à rien, nous n'aurions aucun espoir de vie. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y aurait aucune raison d'écrire le Nouveau Testament. Tout court. Si l'on ne ressuscite pas, comme Paul écrit un petit peu plus tard dans ce même passage que nous sommes en train de lire, « Mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. » Mais Christ est ressuscité. Il y en a qui disent que Jésus était un homme bon ou un prophète moral. Ce n'est pas une option qu'il nous a laissée. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. Donc ça fait de lui soit trois choses. Soit il est menteur, il a réussi à convaincre tout le monde. Dans ce cas-là, il faut encore expliquer la résurrection. Hein. Soit il est complètement taré, il croyait en ce qu'il disait, mais c'était complètement faux. Soit il est vraiment le Fils de Dieu. La résurrection nous montre qu'il est réellement le Fils de Dieu. Il y en a qui disent que le christianisme, ce n'est qu'une copie de choses anciennes, d'autres traditions païennes, etc. Mais en réalité, quand on les regarde, parce que je les ai regardées, hein, on voulait me convaincre que ouais, c'était juste une autre fable. Ça m'avait un peu secoué quand j'étais jeune. Et puis j'ai regardé, je devais avoir 15-16 ans, je suis allé regarder c'est quoi ces autres mythes. Rien à voir. Dans aucune autre religion, est-ce qu'on voit le Seigneur mourir pour son peuple et ressusciter, réellement ressusciter, pas juste un genre de spiritualisation de la résurrection. J'ai vu cet article sur un site que j'aime bien, un site de satire américain, qui s'appelle Babylon Bee, c'est l'abeille de Babylone. Et en gros, il se moque un peu de la culture chrétienne, des choses comme ça, mais tout en général, en relevant vraiment des bons points. Voilà. Et ils avaient ça pour aujourd'hui. C'est confirmé, la résurrection était un poisson d'avril complexe qui a fait en sorte que les disciples soient torturés et qu'ils soient tous morts. En gros, ils disent que c'est confirmé. Bien sûr, tous les articles sont du bidon hein, sur ce site. Mais c'est pour montrer à quel point c'est ridicule. Hein. Ils disent que De nouveaux documents montrent que c'était simplement un poisson d'avril très complexe et que c'est une blague, qui est une farce qui a fait en sorte que tous les disciples soient morts et torturés parce qu'ils ont, ils ont pas voulu laisser tomber la farce, la blague et dire bon, c'était qu'une blague. On comprend très bien que personne ne mourrait pour une farce, pour une blague. Hein? Voilà. Josh McDowell, donc c'est le journaliste dont je vous parlais, il a dit « Après plus de 700 heures d'études sur le sujet, j'ai conclu que la résurrection de Jésus-Christ est soit la farce la plus maléfique, la plus vicieuse et sans pitié qui n'ait jamais été infligée aux hommes, ou alors c'est l'événement le plus remarquable de l'histoire. » Il s'est converti, il a choisi cette option qui lui semblait la seule logique. Pardon. Donc, quelle est l'importance de sa résurrection ? Ben, Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Par sa mort et par sa résurrection, d'ailleurs, vous voyez, nous avons une croix où Jésus n'est pas dessus parce qu'il est ressuscité. Par sa résurrection, nous pouvons avoir la remise de nos péchés. Et, comme nous voyons en fin de notre passage, en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Mais comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Pourquoi est-ce que c'est important la résurrection ? Ben, parce que ça veut dire que nous aussi nous serons ressuscités avec des corps incorruptibles, comme il nous dit par la suite. Sans résurrection des morts, la mort de Jésus ne sert à rien. Nous n'avons aucun espoir d'éternité. Mais grâce à sa résurrection, à la puissance qu'il a démontrée là-dedans, nous savons que nous aussi, nous pouvons avoir cette vie éternelle. Et d'ailleurs, cela veut dire que nos frères et nos sœurs qui sont autour de nous, ben, ce sont des êtres éternels. D'ailleurs, ceux qui ne sont peut-être pas encore nos frères et sœurs, ou qui ne le seront jamais par leur propre entêtement, eux aussi sont des êtres éternels. Et avec cette perspective éternelle, je vais vous encourager par une citation de C.S. Lewis, que vous connaissez sûrement. Il dit ça, c'est avec des âmes éternelles que nous plaisantons, travaillons et nous marions. C'est des immortels que nous rejetons et exploitons. Alors, je vous invite cette semaine, en vue de la résurrection de Christ, en vue de sa mort, de sa résurrection, à ce que ça nous transforme, à ce qu'on puisse voir ceux qui sont autour de nous dans une perspective éternelle. Christ est mort, oui, mais il est ressuscité éternellement pour que nous puissions vivre éternellement. Et c'est des personnes qui vivront éternellement sous Dieu ou éternellement en jugement, avec qui nous travaillons, plaisantons. Quand nous rejetons des gens, ben, c'est des gens aussi éternels. Quand nous les exploitons, nous les utilisons à nos fins, ben, ce sont aussi des personnes éternelles. Par sa résurrection, Christ nous a donné une valeur éternelle qui dépasse juste ce que nous méritons par nos péchés. Je vous laisse avec cela. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que tu es ressuscité. Seigneur, merci parce que par ta résurrection, tu nous donnes la vie. Merci Seigneur parce que par ta résurrection, tu nous donnes la puissance par ton Saint-Esprit. Tu nous donnes un objectif, tu nous donnes une destination finale, pleine de gloire. Seigneur, combien nous ne méritons pas ta grâce. Combien je ne mérite pas ta grâce et combien j'ai besoin de toi chaque jour, Seigneur. Je te prie de m'aider, de nous aider, Seigneur, à vraiment réaliser toute l'ampleur, toute la puissance de ta résurrection ce matin. Transforme nos vies chaque jour et aide-nous à te suivre, à t'aimer et à aimer ceux qui sont autour de nous. En ton nom. Amen.